Bonjour à chacun. Pour commencer notre méditation de ce matin, notre méditation sur la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à visionner une vidéo d'une personnalité célébrissime, puisqu'il s'agit de Bono, le chanteur du groupe U2. Donc U2, le groupe, un des groupes qui a vendu le plus de disques sur la scène du pop-rock anglais et que vous connaissez certainement déjà. Eh bien, ce Bono a donné plusieurs interviews sur la question de la foi ou de diverses choses. Et ce matin, j'aimerais vous proposer qu'on commence notre méditation par cette interview de Bono en vidéo. Voilà ce que nous dit Bono à la question « Qui est Jésus ?» Et je crois que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, et pas seulement à l'époque où la Bible a été rédigée ou transmise, mais depuis ce moment-là aussi, depuis 2000 ans, comme le dit Bono. C'est une question qui fait parler, qui fait réfléchir, qui interroge aujourd'hui encore, pas seulement dans les églises, mais dans différents cercles, dans le show business aussi, avec Bono et d'autres. Et ce matin, je voulais vous inviter à lire un texte des évangiles qui nous pose cette question aussi. Qui est Jésus ? Un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire l'un des quatre récits dans la Bible qui nous parle de l'histoire de Jésus lorsqu'il était sur cette terre. Alors si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir avec moi pour la lecture. C'est Matthieu 16, les versets 13 à 17. Et si vous n'avez pas de Bible, je vous invite simplement à écouter la lecture. Donc Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 17. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Que disent les gens à mon sujet ?» Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous ?» leur demanda Jésus. « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, l'un des disciples, répondit « « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. » Jusque-là, notre lecture. 16e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Ça veut dire 15 chapitres qui ont précédé, pendant lesquels Jésus a vécu avec ses disciples, il a enseigné, il a fait des miracles, il a parlé avec ses disciples. Ça fait donc 15 chapitres que Jésus se présente aux Juifs, aux disciples, aux personnes qui le suivent. 15 chapitres qu'il fait des miracles, qu'il donne des enseignements. Mais jamais, jamais dans ces 15 chapitres, Jésus ne dit qui il est. Jamais il n'affirme qui il est, jusqu'à ce moment. Pourtant, même s'il ne le dit pas, face à ses actes, face aux miracles, face à ses enseignements, la foule se demande quand même, la foule qui l'entoure se pose parfois la question et se dit « Mais finalement, mais qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Serait-il plus qu'un simple homme ? Serait-il différent de moi, de vous ? Serait-il celui aussi que la première partie de la Bible a annoncé comme quelqu'un qui venait sauver, qui venait délivrer le peuple d'Israël, les Juifs de l'époque ? Certains se posent cette question, et puis d'autres aussi tentent de donner une réponse, et c'est ce que nous rapporte Pierre ici. D'autres essayent, ils disent bah, peut-être que c'est Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus qui a été son porte-parole au début de son ministère sur la terre. D'autres disent bah, c'est peut-être un des prophètes, Élie ou Jérémie. On tente une réponse à cette question, parce que la question de Jésus intrigue. De toute évidence, il est grand temps à ce moment-là de l'évangile que la question soit clarifiée, pour la foule comme pour les disciples. Donc on assiste à un événement très important ici, très important pour les disciples, très important pour Jésus. Et pour nous aussi ce matin, je crois que cette question est très importante. Cette question de qui est Jésus, pour nous, pour vous, pour chacun d'entre vous, c'est une question qui a de l'importance. Mais plus important encore que cette question, ou tout aussi important que cette question, c'est le contexte dans lequel Jésus pose la question qui nous intéresse. De ce contexte, on peut relever deux points, deux tendances. La première, c'est que ça se passe dans un contexte intime. Jésus, il a donné beaucoup de son ministère avec des foules justement qui se sont posées des questions. Il a fait des miracles devant beaucoup de personnes. Mais là, pour cette question cruciale, il se retrouve seulement avec 12 disciples, dans un petit groupe, un groupe intime, un contexte intime. Parce que c'est dans l'intimité que ces choses doivent se clarifier pour les disciples. Jésus, Dieu, aime les relations d'intimité. Il aime nous parler dans l'intimité. Il aime vivre avec nous dans l'intimité. Mais c'est vrai aussi pour notre vie. Ce que nous apprenons de Jésus, ce que nous apprenons de Dieu, ce que nous apprenons de la parole se passe parfois comme ici à l'église, mais généralement ne se passe pas dans des grandes réflexions de groupe où on est tout à coup 15 à réfléchir à une question. Ce que nous apprenons de Dieu, ce que nous apprenons de Jésus, ce que nous apprenons de Jésus vient très souvent dans des moments d'intimité au plus profond de notre cœur, au plus profond de qui nous sommes. C'est au fond de notre cœur, au fond de nos pensées, de nos sentiments, que nous commençons à nous poser des questions, que nous sommes intrigués, que nous avons des doutes. C'est dans un contexte d'intimité. Et l'autre tendance, c'est que Jésus ne vient pas comme un bulldozer affirmer qui il est, mais il pose une question ou deux questions. Il pose d'abord la question de savoir qu'est-ce que les gens disent à son sujet, et puis ensuite, et vous ? Vous, mes disciples ? Et je vous pose cette question aussi, chacun d'entre nous ce matin. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous qu'il est, ce Jésus ? La réponse ne s'impose pas. Ce n'est pas Jésus qui impose cette réponse. C'est une question ouverte. Chacun des disciples peut donner une réponse. Chacun d'entre nous pouvons donner une réponse. Et la réponse nous appartient. On a entendu une réponse de Bono. Chacun d'entre nous, on a peut-être une autre réponse à cette question. Que disons-nous qu'il est ? Un mythe ? Il n'a jamais existé ? Un fou ? Quelqu'un qui s'est pris pour quelqu'un qu'il n'était pas ? Un homme intelligent qui a su rallier les foules et devenir le gourou d'un groupe parce qu'il avait du charisme et qu'il a su rassembler les gens ? Ou, comme il l'a dit, lui-même le fils du Dieu vivant ? C'est pas facile de répondre à cette question. Et c'est ce que dit aussi Bono dans son interview. On ne s'en sort pas facilement de cette question. On n'a pas de réponse toute faite, on n'a pas de preuve toute faite. On ne se sort pas facilement de cette question. Alors parmi les disciples, qui osera donner une réponse à cette question ? Évidemment, c'est Pierre, qu'on découvre dans tous les évangiles comme un disciple qui a la langue bien pendue. Il est toujours là pour répondre, parfois à côté de la plaque aussi. Il est toujours là. Alors c'est lui qui ose une question. Quel courage. Et puis, il ose une réponse. Et puis cette réponse, c'est une réponse qui l'engage. C'est pas une réponse toute faite, justement. Quand il dit « Tu es le Messie », c'est-à-dire justement celui que la première partie de la Bible, les textes anciens, annonçaient comme un sauveur pour l'humanité, pour les Juifs de l'époque, pour nous aujourd'hui. « Tu es le Messie ». Tu es le fils du Dieu vivant. Jésus ne dit pas « Oui, c'est vrai, je suis le Messie ». Mais on sent dans sa réponse qu'il y a une sorte de satisfaction. Une sorte de satisfaction de se dire « Ah, Pierre au moins, lui, il a compris. Pierre au moins, lui, il a compris. Et puis Pierre au moins, lui, il ose le dire. Il ose s'engager, il ose donner cette réponse-là. » Et grâce à sa réponse, Jésus qualifie Pierre de « heureux ». « Tu es heureux ». Je relis le verset 17. Jésus répond à Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a fait cette révélation, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux. » Je crois que cela nous montre que ce que nous confirmons, ce que nous confessons, notre confession de foi, nous coûte, c'est sûr, elle nous coûte vis-à-vis de nous-mêmes, elle nous coûte vis-à-vis des autres, d'oser l'affirmer, mais elle nous rapporte aussi. Elle nous rapporte l'heureux, le bonheur de connaître Dieu et d'être associé en tant qu'ami de Dieu. Et puis dans cette affirmation de bonheur, tu es heureux, je crois que Jésus aussi l'a finalement dit quand même, c'est vrai, tu es heureux parce que tu as compris. Tu as compris quelle était la vérité. Tu as compris que ce que tu dis là, que Jésus est fils de Dieu, eh bien c'est la vérité. Alors de toute évidence, les disciples là, ont une meilleure perception de qui est Jésus que la foule. Les disciples, en tout cas Pierre qui se fait leur porte-parole, mais on ose imaginer que c'est ce que les disciples avaient compris ensemble, peut-être qu'ils en avaient même discuté, c'était leur réponse commune. Ils ont mieux compris que la foule qui était Jésus, la foule qui tente des réponses, bon, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, on essaye un petit peu tout le monde, on verra si ça marche, mais en fait, on est à côté de la plaque. Les disciples ont une meilleure perception de Jésus. Pourquoi ? Bien, je crois que c'est parce que ces disciples-là, ils avaient une relation très particulière avec Jésus, contrairement à la foule. La foule a été là parfois pour un miracle, parfois pour un autre, parfois pour un enseignement, parfois pour un autre. Les disciples, eux, ils ont toujours été là. À chaque étape du ministère de Jésus, à chaque miracle, à chaque enseignement, les disciples ont été là. Et ils ont une relation personnelle, une connaissance de Jésus qui est liée au fait qu'ils le connaissent personnellement, qu'ils l'ont entendu prêcher, qu'ils l'ont vu voir, qu'ils l'ont vu faire des miracles, des guérisons, d'autres miracles. Les disciples, grâce à cette relation intime, ont une meilleure perception de qui est Jésus. Alors Elina, Anaïs, Lula, Victor, qui ce matin avez-vous aussi répondu à cette question ? Vous avez osé vous engager, j'allais dire vous êtes jeté à l'eau, mais on pourrait y voir un mauvais jeu de mots, effectivement il y a un mauvais jeu de mots. Vous avez osé répondre à cette question, vous avez osé donner une réponse à cette question que Jésus vous a posée, qui dites-vous qu'il est ? Et puis, en demandant le baptême, en vous faisant baptiser ce matin, vous avez donné cette réponse, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et je crois que cette réponse, si elle a germé en vous, si elle est venue en vous, c'est parce que vous avez su aussi vivre dans cette relation d'intimité avec Jésus, en apprenant à le connaître, ce qui vous a permis d'avoir une conviction personnelle au fond de vous-même. Et on est très heureux de pouvoir vous accompagner dans ce cheminement-là, vraiment très heureux et béni. Et je crois que cette question aussi se pose à chacun d'entre nous ce matin. Et vous ? Et vous ? Et vous ? Et vous ? Qui dites-vous qu'il est ? Pas une question dont on s'en sort facilement, pas une question qu'on a forcément envie de se poser non plus, mais pourtant une question qui vient au fond de nous-mêmes. Qui dites-vous qu'il est ? Un charlatan, un homme rusé, un fou, un menteur. Il y a beaucoup de réponses possibles. Et encore une fois, la question est ouverte. La réponse ne s'impose pas, Jésus ne s'impose pas à cette question. C'est une question ouverte que chacun d'entre nous, nous pouvons prendre et à laquelle nous pouvons réfléchir pour y donner la réponse qui nous semble juste. Mais comme pour les disciples il y a 2000 ans, c'est peut-être aujourd'hui qu'il est grand temps d'y avoir une clarification de cette question. Bono, dans son interview, dit ces quelques phrases qui, je trouve, sont très fortes et qui rejoignent aussi ce que moi-même je crois. Je trouve dur à accepter que des millions et des millions de personnes, la moitié du monde, sur 2000 ans, ont été touchées, ont senti leur vie touchée et inspirée par un fou quelconque. Et il finit en disant « Je ne peux tout simplement pas le croire. C'est trop dur à croire. » Et je crois que le fait que nous soyons nombreux à croire en Jésus, que nous soyons nombreux à croire en Dieu, nous prouve aussi l'importance et la véracité de cette foi-là. Et je crois aussi que ce que nous vivons, ce que nous avons vécu ce matin, que nous allons encore entendre dans les témoignages, de découvrir la foi d'Elina, d'Anaïs, de Lula, de Victor, eh bien, pour moi personnellement, et j'espère que c'est le cas pour vous aussi, c'est une preuve de plus que Dieu existe, et que Dieu touche les vies, et que Jésus touche nos vies aujourd'hui, qu'il est vivant et qu'il touche nos vies. Alors j'aimerais dire merci Elina, merci Anaïs, merci Lula, merci Victor pour ce que vous faites pour nous ce matin en vous engageant publiquement comme Pierre à l'époque, parce que vous nous apportez une preuve de plus que Jésus est vivant. Merci pour ce que vous nous apportez. J'ai envie de dire, soyez bénis dans cette relation d'intimité avec Jésus, ce cercle d'intimité comme les disciples avec Jésus. Soyez bénis quand Jésus vous pose ces questions qui dérangent, ces questions qui vont nous chercher au plus profond de nous-mêmes. Soyez bénis là-dedans. Et que vous puissiez, comme chacun d'entre nous, nous avançons petit à petit sur ce chemin de la foi, que vous puissiez aussi avancer sur ce chemin de la foi, découvrir petit à petit ce que Jésus veut vous montrer, et que ce soit aussi une bénédiction pour nous. Je vais terminer par la prière. Seigneur, ensemble, d'un seul cœur et du plus profond de nous-mêmes, nous voulons élever nos voix et te remercier, Seigneur. Te remercier pour cette journée que nous pouvons passer ensemble. Te remercier pour la décision d'Elina, d'Anaïs, de Lula, de Victor, de s'engager avec toi et de répondre comme Pierre à cette question « Qui dites-vous que je suis ?» De répondre « Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. » C'est ce que nous croyons aussi, Seigneur. Nous nous associons à ce qu'ils ont confessé plutôt au bord du lac, ce qu'ils vont encore nous dire dans leur témoignage. Nous voulons vivre cela ensemble en tant qu'Église. Merci parce que tu nous unis par cette question et cette réponse. Bénis chacun de ces quatre jeunes gens qui s'est engagé ce matin et va encore nous apporter quelque chose cet après-midi. Bénis-les et à travers eux, bénis-nous aussi, Seigneur. Amen.